À voix nue, Emmanuel Loyer, je m'entretiens avec
Monique Lévi-Strauss.
Aujourd'hui, troisième épisode. Vous êtes libre à déjeuner jeudi prochain et tous les autres jeudis. Bonjour Monique, après ces 5 années folles où vous avez survécu dans l'Allemagne nazie, vous revenez dans le Paris libéré, au printemps 1945. Vous n'avez pas 20 ans. La guerre n'est pas encore terminée. En 1946, vous repartez pour 2 années d'études à Boston avec votre frère et votre mère qui est américaine. Mais l'Amérique WASP vous laisse de marbre. Retour à Paris donc en 1947, dans le bouillonnement intellectuel et artistique de l'après-guerre, où vous rencontrez Claude Lévi-Strauss en 1949 dans un dîner chez Jacques Lacan. En même temps que lui, vous rencontrez Michel Léris, André Masson, Maurice Merleau-Ponty, Tina Jolas et Sylvia Bataille, une de vos grandes amies. Tout un petit monde qui tourne autour du Musée de l'Homme, de l'UNESCO, plus que des caves de Saint-Germain-des-Prés. Alors Monique, en 45, donc vous débarquez vraiment à Paris, arrivée de l'enfer un peu quand même. Et vous avez une grande déception parce que une de vos passions, c'était quand même l'idée de faire des études de médecine. Or, ça va se révéler impossible. Et c'est quelque chose qui a compté dans votre vie, puisque par ailleurs, la médecine, c'est votre fils a été médecin, votre petite fille est médecin, votre petit-fils est médecin. Enfin, c'est comme si l'abandon de la médecine par la grand-mère avait passé la génération et puis c'était incarné dans, finalement, vos descendants.
Oui, parce que on m'a expliqué que pour exercer la médecine, il fallait que je sois française. Or, j'étais née à Paris, mais je n'avais pas vécu à Paris entre 16 et 21 ans. Donc, je ne pouvais pas devenir française.
Bon, mais pourquoi ça vous plaisait, la médecine ? Vous en avez fait un peu, quand même.
Oh, mais je trouvais très intéressant de guérir les gens, ça. Enfin, de comprendre quel était leur mal et de les guérir, ça, je trouvais très, très intéressant. Et puis, dans ma famille, tout le monde était médecin. Et donc, j'avais vécu dans cette atmosphère et je trouvais que c'était un métier fait pour moi. Je le pense encore.
Et j'ai eu l'impression, en tout cas, que dans votre enfance, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié au type de famille qui a été le vôtre, juif, pas catholique, je ne sais pas, il faut voir, mais qu'on nommait un peu aussi le corps. Ce n'était pas du tout une éducation, disons, qui cachait
exactement
le corps, même la reproduction, les organes sexuels, etc.
Dans ma famille, on appelait un chat un chat. On ne tournait jamais autour du pot.
Même pour les enfants.
Même pour les enfants apprenaient très vite que c'était pas des gros mots. Enfin, dans toute ma famille maternelle, disons, là où il y avait tous ces médecins, on disait toujours la vérité sur l'état des gens et puis sur l'état des corps. Et donc, il n'y avait pas de partie du corps qui était innommable dans ma famille.
Alors, vous n'avez pas été médecin, mais vous m'avez dit plusieurs fois que vous avez quand même été médecin de votre mari, d'une certaine manière.
Bah oui, j'ai eu un patient et je l'ai vraiment guéri. Hein. Mon mari avait de l'hypoglycémie. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, il me l'a dit, parce que son médecin avait fait demander des analyses de sang et c'était patent que il lui manquait du sucre dans le sang, donc il souffrait d'hypoglycémie. Et les moments douloureux quand on est hypoglycémique, c'est avant les repas, puisque c'est à ce moment-là que le corps demande à manger. Donc pendant la demi-heure avant un repas, surtout un repas qui n'est pas à l'heure, quelqu'un souffre de grands tiraillements quand il a de l'hypoglycémie. Or, Claude avait divorcé 2 fois, et ces 2 femmes avaient dit qu'il était impossible, qu'ils se mettaient dans des colères. Et moi, il se trouve que j'avais lu des livres sur l'hypoglycémie, par hasard, chez mon amie Sheila Hicks, dont la mère était abonnée au Book of the Month Club, c'est-à-dire un club américain qui envoyait tous les mois 1 ou 2 livres qui avaient eu un grand succès. Et ensuite, elle les envoyait à sa fille. Et là, j'avais trouvé un livre américain sur « Low blood sugar and you ». J'ai pris ce livre, puisque c'était sur l'hypoglycémie, écrit par des médecins, dont un était probablement hypoglycémique, parce qu'il décrivait les symptômes de Claude, mais d'une manière prodigieuse. si vous voulez, comme des crises de colère injustifiées à certains moments. Et ces deux précédentes femmes trouvaient que, enfin, il fallait qu'il aille voir un psychiatre. Et moi, je me disais que ça ne relevait pas du tout de la psychiatrie, c'était de l'hypoglycémie, puisque c'était décrit dans le livre que je lisais. Et dans ce livre sur l'hypoglycémie, on disait qu'il y avait un moyen très simple de le guérir, c'est une diète très stricte pendant 6 mois et qui allait en progressant. Tous les 15 jours, le régime changeait. Mais aucun médicament, simplement, on disait exactement ce qu'il fallait manger comme légumes, comme fruits, toutes les matières qu'il fallait manger et toutes celles qu'il ne fallait pas manger et de manière progressive pendant 6 mois. Et j'ai demandé à Claude s'il acceptait de se mettre à ce traitement et Claude m'a dit « on peut toujours essayer ». Au bout des 15 jours, j'ai demandé à Claude « quel effet ça fait ?» Il m'a dit « j'ai toujours très mal avant les repas, mais c'est devenu supportable ». Il y avait donc une nuance. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en conclus ? Il m'a dit, je veux bien essayer encore 15 jours. On a fait encore 15 jours, je suivais exactement ce que préconisait le régime. Et au bout de ces seconds 15 jours, il m'a dit, ça va vraiment mieux. Et j'ai dit, est-ce que tu es prêt à faire les 5 mois qui suivent ? Il m'a dit oui. Vous voyez, il avait de la suite dans les idées.
Oui, d'ailleurs, il a changé de silhouette à ce moment-là.
Je peux vous dire, c'était totalement sans sucre. Et vous pensez, il y avait de quoi changer de silhouette. Ce que j'ai trouvé moche, c'est que tous les gens à l'UNESCO où Claude travaillait beaucoup à ce moment-là disaient, sa femme est terrible, elle veut avoir un mari très mince, elle l'a mis à un régime, il est mince comme un fil pour plaire à sa femme. C'est idiot tout ça, c'est complètement idiot. Et les gens me prenaient pour une terreur, vous voyez. Alors que j'ai complètement guéri Claude. Je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, il était guéri.
Alors, revenons aux années d'après-guerre. Vous ne pouvez pas être médecin, donc. Oui. Et vous allez passer 2 ans à Boston, à Harvard ou à un des collèges de Boston, je ne sais plus. Et est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire là aussi l'ambiance, sachant que ça vous a assez peu plu et que finalement vous n'êtes pas loin de décrire la vie américaine comme Claude Lévi-Strauss lui-même la décrira, c'est-à-dire avec ce mélange de conformisme, même d'infantilisme parfois, enfin c'est un petit peu la même chose. Alors comment s'est passé ces 2 années ?
J'étais au collège et je faisais ce que tous les autres font, mais leur manière de s'amuser ne m'amusait pas du tout. Parce qu'au collège, il n'y avait
pas collège, c'est l'université.
C'est l'université, c'est ça.
C'est ça.
Au collège, on est donc on habite le collège et on mange ensemble. Eh bien, il n'y a qu'une manière de s'amuser, c'est de vider des bouteilles de Coca-Cola, de sortir, d'acheter une bouteille de rhum, de remplir les bouteilles de Coca-Cola de rhum et de revenir au collège, ce qui fait que dans les chambres, on croyait qu'il y avait des bouteilles de Coca-Cola, c'était toutes des bouteilles de rhum. Et le grand sport des étudiantes, c'était à partir de 5h30, on buvait du faux Coca-Cola qui était du pur rhum et on se saoulait. Et naturellement, au bout d'une demi-heure, quand vous buvez du rhum pur, vous dites toutes les bêtises que vous voulez. Et c'est ça qui les réjouissait. Et moi, je peux vous dire, ça ne me réjouissait pas du tout. Me saouler à 5h30 du soir, non. Vraiment, après la guerre que j'avais passée, je trouvais qu'il y avait d'autres amusements.
Bon, donc, vous quittez sans état d'âme, les États-Unis. C'est amusant d'ailleurs parce que plus tard aussi, Lévi-Strauss, on lui propose un poste aux États-Unis et il dit non, pas d'accord.
On lui propose Harvard et il a dit non parce qu'il savait que ça serait ça.
Oui, il n'y a pas du tout chez vous
de fantasme américain. C'est toujours se saouler après 5h30.
Par ennui un peu ou par conformisme.
C'est pas seulement ça. C'est par la détente, parce qu'ils travaillent beaucoup plus dur que nous, les Américains. Je veux dire, à 8h le matin, ils sont vraiment au boulot. Et ils travaillent, mais de manière très, très sérieuse. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne savent pas travailler. Ce sont de très bons travailleurs. mais leur rythme de travail et leur façon de travailler, si on n'est pas né là-dedans, c'est insupportable.
Bon, donc vous revenez à Paris en 1947.
Oui.
Et là, vous plongez vraiment dans une sorte de monde quand même assez exaltant, en tout cas qui vous plaît davantage que les collèges américains. Vous habitez d'abord chez des amis qui vous prennent pratiquement comme leur fille.
Comme leur troisième fille.
Voilà, peut-être vous pouvez raconter, parce qu'ils ne sont pas si connus, hein, c'est les Jolas.
C'est les Jolas. Et les Jolas ont joué un grand rôle avant la guerre, dans les années 30, parce que ils étaient éditeurs. Elle était une fille du Kentucky avec une certaine fortune. Ça leur permettait de publier des livres à compte d'auteur. Et c'est eux qui ont été les premiers à publier Joyce, ce qui était quand même remarquable.
Ils recevaient beaucoup.
C'était table ouverte chez eux. Et grâce à Clara Malraux, quand je suis revenue à Paris, Clara Malraux était une amie de ma mère, elle m'a dit, tu devrais aller à Royaumont, il y a une décade qui est dirigée par Jean Val, et il y a beaucoup de gens qui reviennent d'Amérique, que tu connais en partie. Tu verras, c'est très bien Royaumont, les 10 jours qu'on y passe, c'est toujours intéressant. Donc j'avais été à Royaumont, c'est là que j'avais rencontré les Jolas. J'ai dit que je cherchais une chambre dans le quartier latin. Ils m'ont dit, il n'est pas question que tu ailles habiter dans une chambre. Nous, on loue un grand appartement avenue Kléber. Viens vivre avec nous, tu seras notre troisième fille.
Et les deux filles Jolas, peut-être vous
oui,
pouvez les...
Oui, les deux filles Jolas. L'aînée était Betsy Jolas, la compositrice.
Oui, qui aujourd'hui est très reconnue.
Très reconnue. Elle était excellente. Je veux dire, comme musicienne, on ne faisait pas mieux. Elle était très savante et elle était très bon professeur. Mais elle n'était pas drôle comme copine. Ça, on ne pouvait pas faire les 400 coups avec elle. Parce qu'elle travaillait, elle travaillait. Elle n'avait que cette idée-là en tête. Bon. Et puis sa sœur Tina, qui a été une de mes meilleures amies et qui a été longtemps la maîtresse de René Char.
Voilà. Qui était la femme du poète André Dubouchet.
Oui, à un moment donné, elle a épousé André Dubouchet, mais il l'a tout de suite beaucoup trompée, ça n'a pas duré du tout. Ils ont eu des deux enfants ensemble. Enfin, ce n'était pas du tout un bon ménage. André Dubouchet avait été un de mes amis quand j'étais à Boston.
Donc là, dans ce qui est un peu une espèce de salon finalement parisien, vous rencontrez tout un tas de gens, notamment les maçons. Vous m'avez dit que Maurice Merleau-Ponty était quelqu'un que vous connaissiez bien aussi.
Oui.
Et Lacan, vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, il faut que je vous dise qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à vivre chez les Jolas et qu'on voyait toute la bande, Lacan et tout ça, c'était la floraison de l'existentialisme. Et je dois dire que leur morale ne me plaisait pas du tout. Pour les existentialistes, à ce moment-là, c'était les mâles qui avaient tout à dire et les femmes qui devaient s'exécuter. C'était vraiment une troupe de machos. Moi qui venais de Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Angleterre, c'était pas comme ça du tout, c'était pas du tout des machos. Alors, moi, leur morale, la morale de Sartre, mais je trouvais ça simplement dégoûtant et complètement injuste.
Vous voulez dire la morale au sens comment elle se conduisait
La morale, c'était...
Avec les femmes, c'est ça?
Oui, quand on dit à une femme qu'elle doit s'allonger, il faut qu'elle écoute et qu'elle obéisse, elle a que ça à faire. Elle n'a pas son mot à dire. Moi, je trouvais ça absolument ignoble.
Vous dites ça pour Maurice Merleau-Ponty?
Maurice Merleau-Ponty et les autres.
C'était un ami à vous en même temps?
Non, au début, Maurice Merleau-Ponty, je me souviens... On passait des vacances à Saint-Tropez, je crois que c'était juste en 50, l'été 50. Et il me donnait rendez-vous chez Sénéquier. Sénéquier, c'était l'endroit où on buvait un verre. Bon, et il voulait absolument coucher avec moi. Il ne comprenait pas pourquoi je n'obéissais pas. Non, mais ils étaient d'un macho. Je lui disais, mais je ne comprends pas du tout, c'est pas parce que vous avez envie de coucher avec moi que c'est un ordre quand même. Il disait, si, pourquoi est-ce que vous sortez avec moi? Je lui ai dit, je vais vous dire la vérité. Je sors avec vous parce que vous parlez la langue française d'une manière qui me fait très plaisir. Et moi, c'est à vous écouter que je prends du plaisir. Ça n'a rien à voir avec baiser. c'est juste pour vous écouter. Et il me disait, j'ai dit oui, vous me faites plaisir en parlant. Moi, je prends mon plaisir où je le trouve. Hein. Et alors Merleau-Ponty, il me trouvait salace de lui parler comme ça, sans respect. Enfin, il n'en revenait pas.
Oui, vous étiez
pas.
Assez libre de vos paroles, manifestement. Et de vos mouvements.
Ah bah, moi, je suis dans une famille où un chat, on appelle un chat un chat. Donc, si vous voulez, je le disais très poliment. Hein. Mais enfin, je lui faisais comprendre que physiquement, il ne m'attirait pas du tout.
Et ce que vous dites, les existentialistes, mais finalement, vous êtes plutôt côté Musée de l'Homme. Vous connaissez aussi Michel Léris.
Bien sûr.
Lui, il vous courtisait pas particulièrement.
Oh ben Michel Léris, s'il voulait que se suicider, c'est pas difficile. Donc, on n'entrait jamais dans ses projets. Si vous voulez,
vous voulez dire, il était dépressif.
Oui, c'est ça. Et sa femme.
Mais c'était un écrivain et un ethnologue, que vous admiriez.
Oh, mais j'avais une admiration énorme pour lui. Je l'avais lu entièrement, si vous voulez. Pour moi, c'était un des grands auteurs. Mais lui, il était dépressif.
Alors, dans tout ce monde-là, finalement, là encore, vos capacités linguistiques, ça joue un rôle dans votre vie, l'apprentissage des langues, finalement. Vous l'avez payé cher, mais ça vous a donné des opportunités. C'est un peu grâce à ça que vous rencontrez Lacan. Et oui. Qu'ensuite, vous rencontrez Lévi-Strauss, vous voulez bien nous raconter?
Par exemple, Lacan, comme tout grand bourgeois, enfin français, parisien, il savait parfaitement le latin et le grec, mais il ne parlait pas l'anglais et il ne comprenait pas un mot d'allemand. Or, quand on est psychanalyste, quand même, c'est pas mal d'avoir lu Freud, parce que Freud avait été traduit par des dames qui mettaient des gants, quand même, pour traduire. Et il savait que les traductions n'étaient pas fidèles. Et il ne pouvait pas lire en allemand. Quand il a su que je parlais couramment l'allemand et que je le traduisais facilement, il m'a dit « Je veux que tous les dimanches après-midi, on les passe ensemble. » Donc, on passait nos dimanches après-midi ensemble et on traduisait Freud. Je dois dire que j'y ai pris grand plaisir. Je lui traduisais Freud mot à mot. Il n'y avait aucune triche. Mais lui, il m'expliquait pourquoi Freud était si important. Alors, d'avoir l'exégèse de Lacan, c'était quand même un grand privilège. À tel point que Sylviac, Lacan, elle était bataille à ce moment-là, elle entendait nos conversations, elle disait « Mais c'est très intéressant, je prends mon tricot et je viens m'asseoir à côté de vous. » Et elle venait s'asseoir à côté de vous parce que c'était passionnant. Moi, je traduisais Freud et lui, il m'expliquait pourquoi Freud était génial. Je ne peux pas vous dire, les conversations, c'était vraiment épatant. Donc, on a passé beaucoup de dimanches à trois comme ça. Et ça finissait toujours très bien parce que pour me récompenser, Lacan m'invitait à la Méditerranée. C'est le restaurant Place de l'Odéon. Oui, et j'adorais les dîners Place de la... Donc, on a passé des dimanches, mais dont on se souvenait tous les trois. Si vous voulez, il y en avait pour tous les trois.
Non, mais c'est intéressant dans l'histoire de la psychanalyse. Ah ben, l'idée qu'il a puisque Lacan, c'était le retour à Freud, retour à Freud via le contact au texte direct. Alors, c'est chez Lacan que vous allez rencontrer quelqu'un qui a aussi besoin qu'on lui traduise des textes en allemand. C'est l'ethnologue Claude Lévi-Strauss. Donc, c'était en 49, c'est ça?
C'est l'automne 49. C'était un dîner, je me souviens très bien. Il y avait Balthus, il y avait Lacan, il y avait Sylvia et Jacques, et il y avait moi. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe lors de ce dîner?
Eh bien, Claude apprend pendant ce repas que j'ai passé toute la guerre en Allemagne et que je parle couramment l'allemand. Et il me dit, est-ce que vous seriez capable de traduire de l'allemand? Je dis ça plutôt deux fois qu'une, bien sûr. Parce qu'il me dit, il y a des Allemands qui ont fait des missions en Amazonie dans les années 30, qui ont rapporté des textes très importants, mais pas assez importants pour qu'on les traduise. Donc, ils sont en allemand et Claude me dit, je n'ai jamais pu lire l'allemand, donc il faudrait qu'on me les traduise. Est-ce que vous seriez capable de les traduire? J'ai dit absolument, très très facile.
Oui.
Et ben, il m'a dit, justement, j'ai un poste libre au Musée de l'Homme. Claude était sous-directeur, faisant fonction de directeur, et on lui avait attribué un poste de documentaliste. Et il m'a dit, je n'ai mis personne dans ce poste, donc je peux tout de suite vous donner un poste, pas bien payé, mais je ne vous demanderai qu'un demi-temps. Donc vous serez bien payé, puisque je vous demanderai que de venir le matin. Est-ce que ça vous va ? Oh ben j'ai dit, je veux bien. Et d'autant que j'avais un passeport étranger et qu'il fallait tout le temps faire renouveler ma carte d'identité et qu'on ne pouvait bien la faire renouveler que si on avait un travail. Sans ça, il fallait prouver qu'on n'était pas une pute. C'est assez difficile à prouver, si vous voulez. Comme c'est dans le négatif, faut faire des détours invraisemblables. Donc j'ai dit, je suis belge, j'ai une carte d'identité, d'avoir un poste fixe au Musée de l'Homme, ça me va tout à fait. En effet, parce qu'on m'a donné une carte d'identité pour 2 ans. Ça, c'était du luxe pour moi. Mmh. Donc, tout allait bien. Et j'ai travaillé avec lui tous les matins à traduire de l'allemand.
C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est l'ethnologie. Encore à l'époque, on pouvait plus ou moins tout lire. Il y avait une forme d'exhaustivité dès lors qu'on avait accès à la langue. Donc, ça prouve bien que c'est toute une génération qui lisait toute la production, en fait, très cosmopolite. Enfin, mais l'allemand, c'était une grande langue, en effet.
C'était une grande langue.
Donc, c'était
oui, et Claude n'avait pas appris l'allemand.
Donc, vous commencez à travailler avec lui au Musée de l'Homme. Il avait la réputation d'être capitolin.
Oui, tout le monde disait... Alors qu'il était plutôt timide, je dirais. Et puis, il adorait rigoler. Et qu'est-ce qu'on a ri ensemble ? On se comprenait très, très bien. Ben oui.
Il n'avait pas la réputation d'être très rigolo ?
Oh mais, mais qu'est-ce qu'il
était
drôle.
Plutôt un homme taiseux,
non. Enfin, j'ai énorme. Qu'est-ce qu'on riait. Mais vous pouvez pas savoir ce qu'on riait. Mais parce qu'il était, enfin, si vous voulez, il n'aimait pas bavarder, il n'aimait pas perdre son temps.
Vous travailliez avec lui aussi, vous faisiez pas que rigoler.
Eh ben, je traduisais sans arrêt. Je traduisais de l'allemand pour lui. On passait des matinées entières à traduire de l'allemand, si vous voulez. Et ça allait, c'était très très facile pour moi. Oui.
Mais à un moment, votre relation a évolué, puisque finalement...
Non, c'est sa relation avec sa femme qui a évolué, parce qu'elle ne comprenait rien à ce qu'il faisait, et tout allait mal pour Claude. Parce que Claude, alors il faut qu'on revienne sur la dernière année aux États-Unis de Claude. Claude avait envie de finir son livre sur les structures élémentaires de la parenté. Et il ne voulait pas quitter la New York Public Library. Donc il n'est pas rentré en France tout de suite. Il a préféré rester comme conseiller culturel encore 1 an et demi aux États-Unis pour avoir accès à la bibliothèque. Et ça lui a coûté très cher, parce que comme il est revenu 1 an et demi après tous ceux qui avaient fui la France, tous les postes étaient pris. Donc il a eu beaucoup de mal à s'insérer.
Oui, il est sous-directeur du Musée de l'Homme. Il pensait avoir la direction.
Rivet
devait
lui avait promis la direction, mais
ça
comme
n'a pas marché.
Tout le monde avait changé au Musée de l'Homme pendant la guerre, évidemment. Je dis pas que c'était des collabos, mais c'était pas des résistants en tous les cas. Si vous voulez, c'était plus du tout le même personnel. Donc, ouais. Il n'a pas été directeur du Musée de l'Homme.
Enfin, en tout cas. À un moment donné, à partir de 1951, donc oui, il n'était pas très heureux professionnellement et pas très heureux en ménage non plus.
Non, il n'était pas heureux en ménage parce que sa femme considérait que Claude, c'était le travail et le salaire et qu'elle, elle s'occupait des enfants et qu'elle n'avait pas à s'intéresser à son travail du tout.
Ils avaient un enfant ensemble. Ils avaient
un enfant, Laurent. Et elle avait 2 enfants d'un précédent mariage. Donc, elle s'occupait de la maison et des enfants, et elle ne s'intéressait pas du tout à son travail. Et Claude passait des moments très, très difficiles dans son travail. Il avait absolument besoin de parler. Et ça, elle n'avait pas compris.
Donc finalement, il a parlé avec vous.
Oui, il n'était pas bavard, mais il avait besoin quand même d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Et je dirais que sa femme est en partie responsable de ce que Claude m'a tellement parlé, parce qu'elle ne voulait pas l'écouter, ça ne l'intéressait pas du tout.
Donc il vous parle, il vous demande aussi de ranger sa bibliothèque. Je trouve que c'est un épisode significatif. En même temps, c'est un peu en rangeant la bibliothèque que votre relation devient un peu sentimentale, amoureuse.
Oui, ce qui était arrivé, c'est que sa bibliothèque à New York avait été mise en carton par des déménageurs qui ne s'intéressaient qu'à la taille des livres. Alors, ils avaient classé tous les livres par taille. Vous vous rendez compte, hein ? 10 000 volumes. C'est-à-dire que au sortir, je crois qu'il y avait 12 000 livres, absolument inclassés. Il a fallu classer 12 000 livres. Et plusieurs de ces livres étaient dans des langues et dans des écritures que nous ne connaissions même pas. Il les avait à cause des illustrations. Donc, il fallait avoir sur soi des cartes qui montraient, par exemple, l'équivalence du cyrillique. Moi, je ne lisais pas le cyrillique, mais j'avais un carton. Je pouvais tout traduire parce que je regardais le carton du cyrillique. Et puis, il y avait du gothique. Ça, je savais par cœur, le gothique. Mais il y avait 5 ou 6 écritures qu'il fallait pouvoir traduire pour pouvoir les lire. Bon, et Claude savait que j'étais assez forte pour ce genre de gymnastique cérébrale, si vous voulez. Donc, il m'avait dit, j'ai besoin de vous pendant 15 jours. Sa femme partait à Monte-Carlo rejoindre son père pendant 15 jours de vacances de Pâques. Il m'a dit, j'ai besoin de vous pendant 15 jours, mais il faut que vous me promettiez de ne prendre aucun rendez-vous, parce que quand on est dans les classements, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Et donc, pendant 15 jours, Claude et moi, on ne s'est pas quittés. La seule chose, c'est que le soir, on mangeait, on ne pouvait pas manger à déjeuner, on bricolait un truc, on travaillait sans arrêt pour classer ces 12 000 livres en 15 jours. Il fallait que tout soit fait en 15 jours. C'est beaucoup, vous savez, des milliers de livres. Donc, le soir, et puis on avait besoin de respirer, il y a une telle poussière dans les livres, ça n'a l'air de rien, mais quand même, derrière les livres, ça s'amasse. Bon, on avait besoin de respirer, et il me disait, quand on a fini le soir, on marche. Alors, on marchait, on était au Trocadéro, on marchait toujours jusqu'à l'Étoile, et puis, glorieusement, on descendait les Champs-Élysées pour respirer un grand coup. Voilà, bon, on faisait ça tous les soirs. Bon.
Et puis, à la fin de tout ça, on peut dire que Claude Lévi-Strauss n'est pas un troubadour de l'amour, mais il vous fait quand même une déclaration assez minimaliste.
Oui. Claude m'a quand même dit que, enfin, il ne m'a pas fait la cour du tout. Il m'a simplement dit, mais je vais vous lire ce qu'il m'a dit.
Parce que vous l'avez écrit dans votre livre d'entretien.
Il m'a simplement signifié qu'il lui plaisait de partager un repas avec moi. C'est vrai qu'après avoir travaillé très dur, on allait dîner ensemble, puisqu'on n'avait pas déjeuné. Et puis il m'a dit tout à trac, est-ce que vous êtes libre à déjeuner jeudi prochain ? J'ai acquiescé et il a ajouté, et tous les autres jeudis. Ça, c'était sa déclaration et c'est ce qu'on a fait pour la vie.
C'était À voix nue, Monique Lévi-Strauss. Réalisation Jean-Philippe Navarre, chargé de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Emmanuel Loyer. Disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.